Ce récit d'Ananias et Saphira dans les Actes des Apôtres est absolument épouvantable. Pierre qui foudroie à mort un couple de fidèles qui n'ont donné que la moitié du prix de vente de leurs champs aux apôtres, alors qu'ils prétendaient tout donner, avouez que c'est curieux. C'est quand même très éloigné, évidemment, du message du Christ, qui est un message de pardon, un message de paix, un message de tolérance. Et cette espèce de violence, d'intolérance, de crime, dirais-je, comment peut-on l'assumer dans nos écrits saints? Comment peut-on dire qu'il y a là une parole de Dieu même? C'est absolument choquant, c'est inadmissible. Et déjà, ça aurait déjà une utilité, tiens. C'est que ce texte-là serait utile au moins en cela qu'il montre qu'il ne faut jamais lire la Bible au pied de la lettre. C'est-à-dire, ça nous démontre le danger du fondamentalisme. Vous savez, certains disent « Ah, c'est le sola scriptura, il faut appliquer la Bible. » Alors très bien, appliquez la Bible. Et ceux qui ne donnent pas tout leur bien aux apôtres, qu'on les tue devant moi, qu'on les égorge là, tous les deux. Évidemment non. Donc le fondamentalisme est absolument impossible. Il ne faut pas appliquer la lettre de la Bible, il ne faut même pas appliquer la Bible. La Bible n'est pas un livre à appliquer, c'est tout à fait autre chose. Et je dirais même, j'irai plus loin, je dirais même que personnellement, je ne crois pas que cette histoire se soit passée comme ça. Alors je sais, c'est toujours le même problème, dans la Bible il y a des tas de miracles, des choses merveilleuses, certains y croient, d'autres n'y croient pas, et on peut dire après tout, pourquoi ne pas croire aux miracles de la Bible quand Jésus ressuscite Lazare, ressuscite un enfant, guérit un malade? On se dit, bon, c'est difficile à admettre, mais au moins c'est sympathique, donc pourquoi ne pas y croire? Mais là, non seulement je n'y crois pas, mais en plus je ne veux pas y croire, et j'espère bien que ça n'a pas eu lieu, j'espère bien que cette histoire n'est qu'une légende, j'espère bien que Pierre n'a jamais tué comme ça devant lui un couple de gens qui n'auraient pas tout donné à l'Église, sinon ça n'est pas ma religion. Alors comment s'en sortir? Que faire de ce texte épouvantable? Alors il y a évidemment des manières de s'en sortir, les théologiens se tirent toujours d'affaire. J'ai lu à peu près tous les commentaires qui peuvent exister sur ce texte, et tous, avec une bonne volonté très louable, essayent de montrer qu'en fait ce texte n'est pas tout à fait faux. Alors évidemment, tout le monde dit qu'il s'agit d'une que c'est exagéré, tout le monde dit que c'est sans doute une légende, tout le monde dit qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais qu'il y a quand même là-dedans un sens qui n'est pas absurde, si on le lit en décodant, en quelque sorte. Et ce que disent les bons commentaires, c'est qu'en fait, cette histoire est un genre littéraire, bien répertorié dans la Bible, qui s'appelle le genre littéraire de la punition de Dieu. Et donc souvent, dans la Bible, et surtout dans l'Ancien Testament, il y a ainsi des moments où l'on montre que Dieu punit certaines personnes qui font le mal. Et la manière de comprendre cela, c'est non pas de dire que Dieu punirait, parce que je ne crois pas que Dieu punisse personnellement, mais de dire que ces punitions de Dieu, c'est une façon de dire qu'il y a des comportements qui ont des conséquences mortifères et dangereuses. Vous savez, autrefois on attribuait tout à Dieu. Il fait beau, c'est Dieu qui le donne, il fait mauvais, c'est Dieu qui envoie la pluie, je suis en bonne santé, merci bon Dieu, je suis malade, c'est Dieu qui m'envoie une épreuve. Et donc dans une théologie un peu primitive, on attribue tout à Dieu et on montrait simplement qu'il y avait des comportements qui étaient dangereux. Et quand on dit si tu fais le mal, il t'arrivera tel problème, c'est pour expliquer que tout n'est pas équivalent dans notre vie, il y a des comportements dangereux et on attribuait ça à Dieu d'une façon un petit peu symbolique, autrement dit. Donc ce serait une mise en garde contre des choses, je dirais, mortifères. Et en effet, quelle est l'erreur d'Ananias et Saphira? Ce n'est pas de ne pas avoir tout donné, parce que les apôtres ne demandaient pas que tout le monde donne tout, mais c'est d'avoir menti. C'est ça qu'il lui reproche. Il dit, tu prétends avoir tout donné alors que tu n'en as donné que la moitié. Ça n'est pas supportable. Et on peut dire qu'effectivement, ce texte peut nous montrer le danger mortel du mensonge. C'est un danger mortel, d'abord par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en communauté avec quelqu'un si on construit cette relation sur le mensonge. Ça n'est pas possible. On tue la communauté. Si on commence à vivre une relation avec quelqu'un dans le mensonge, il n'y a plus de possibilité de vivre avec quelqu'un. Ça, je le crois. Parce que dans le mensonge, on casse, si vous voulez, la relation avec l'autre. On casse la confiance de l'autre. Et je crois que le mensonge n'est pas qu'une petite faute morale, mais c'est quelque chose qui nous tue par rapport à la communauté. Et c'est peut-être ça qu'il voulait dire. C'est non pas qu'ils aient été morts physiquement, mais qu'il y avait une communauté de gens qui étaient en confiance entre eux, qui partageaient tout, qui s'entraidaient. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui veut faire partie de cette communauté en se construisant sur un système de mensonges, il est comme mort par rapport à la communauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour eux dans une telle communauté. Voilà. Ensuite, le mensonge est aussi mortifère par rapport à soi-même. Ça, je crois que c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Et cela nous dit que si vous voulez vivre, enfin, spirituellement, moralement, vivre heureux, vivre bien, quoi, parce que vous pouvez mentir et vivre jusqu'à 100 ans, c'est pas la question, mais si vous voulez vraiment vivre avec le plein sens du terme, eh bien, soyez franc avec vous-même. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses en face. Il faut assumer sa propre existence. Il faut s'accepter. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Et on ne peut pas vivre en essayant de faire semblant d'être saint. Nous ne sommes pas saints, eh bien, assumons-le. Et vous ne pourrez vraiment vivre que le jour où vous assumerez vos propres faiblesses. Et le jour où vous serez capable de dire, même aux apôtres, « Oui, cher Pierre, je suis désolé, je n'ai pas la force de tout donner à l'Église. » Et je l'assume. J'en pleure peut-être, ou alors j'en suis fier pour j'en sais rien, mais je l'assume. C'est-à-dire, essayez pour une fois de vivre votre propre vie. Si vous n'arrêtez pas de vous mentir à vous-même, de mentir aux autres, de prétendre être un autre que ce que vous êtes, non seulement aucune vie sociale n'est possible, mais même votre propre vie ne sera pas possible. Et finalement, au lieu de vivre votre vie, vous vivrez autre chose et vous serez mort pour vous-même. Ça n'est pas faux. Et c'est vrai aussi qu'on ne peut pas mentir par rapport à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut être en paix par rapport à Dieu que si on est franc avec lui. Ça, dans la tradition chrétienne, ça s'appelle la confession du péché. Et par rapport à Dieu, on ne joue pas au malin avec Dieu. Et on ne peut vraiment vivre que si on est capable de reconnaître sa faute et de dire à Dieu, « Oui Seigneur, voilà qui je suis. Je le sais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Si on regarde les choses en face, si on n'essaye pas de les travestir, mais au contraire de les assumer comme des adultes. C'est les enfants qui mentent, pas un adulte. Sinon, on ne peut pas vivre vraiment sa vie. Donc ça, je pense que c'est vrai. Et évidemment, ce texte est violent, mais peut-être faut-il à un moment donné quelque chose de fort qui nous mette en face d'une réalité et qui nous rappelle quand même cela. Parce que pour vivre, aussi bien dans la société, dans l'Église, dans notre pays, dans le monde, par rapport à notre famille, à nos proches, nous avons besoin d'une parole claire, d'une parole franche, d'une parole droite. Et je crois que les dissimulations, les hypocrisies, la langue de bois, tout ça, ce ne sont que des armes qui ne font que nous tuer et que tuer les communautés. Ceux qui prétendent être quelque chose et qui sont autre chose sont des poisons qui tuent la communauté et qui finissent par se tuer eux-mêmes. Et ça, je ne peux donner que des exemples nombreux qui ne sont pas trop proches de nous pour éviter de nous bouger, mais vous verrez comment vous le vivez. Je dis, regardez le scandale des prêtres pédophiles. Le scandale, c'est ça. Qu'il y ait des pédophiles, il y en a partout, c'est très mal. Dans l'éducation nationale, chez les pasteurs, les prêtres, etc. Mais ce qui choque les gens, c'est quelqu'un qui prétend être quelque chose et qui est autre chose que ce qu'il prétend. Ça, c'est, j'allais dire, encore plus grave, insupportable. Et ça tue la personne, ça tue les victimes et ça tue aussi l'institution. Ou alors, les hommes politiques véreux. Ça aussi, on a des exemples. Celui qui ment, je dirais celui qui dit qu'il faut lutter contre la fraude fiscale et qui lui-même dissimule de l'argent. Eh bien, celui qui a menti, il est mort. Et c'est vrai, ça. Il est mort politiquement. Il est mort socialement. Il est fichu. Et en plus, il fait un tort absolument incroyable à l'institution, à la confiance qu'on peut avoir au groupe. Et donc oui, ça n'est pas possible cela. Il y a un danger mortel là-dedans, dans cette espèce de mensonge. Et ce à quoi nous invite l'Église, enfin la Bible, c'est de confesser. Confesser, ça veut dire reconnaître publiquement. C'est pour ça qu'on peut confesser sa foi, je dis en quoi je crois. On peut confesser son péché, je dis ce qu'il y a d'imparfait chez moi. Et bon, oui, effectivement, nous devons confesser, c'est-à-dire dire publiquement, reconnaître ouvertement le bien et le moins bien de nos vies. Et c'est comme ça que l'on peut vivre par rapport à soi, par rapport aux autres et par rapport à Dieu. La parole véritable est, je le crois, de plus en plus source de vie, source de relations humaines solides, fécondes, stables et durables. Et ça, on le voit dans tout, même les psychanalystes disent ça. Françoise Dolto qui dit, vous savez, même à vos enfants, même quand ils ont 6 mois, 3 mois, 1 mois, dites-leur la vérité. Voilà. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, j'en sais rien, mais parlez et dites ce qui est vrai aux gens. Vous savez, c'est incroyable la puissance de vie qu'il y a dans la vérité, qui peut être dite d'une façon agréable, hein, faut pas être désagréable avec les gens, mais de dire ce qui est vrai et de ne pas chercher, en tout cas, à travestir les choses. Et puisque je parlais de psychanalyse, c'est aussi tout le travail thérapeutique de la psychanalyse, d'essayer de dire aux gens, si vous vivez mal, c'est qu'il y a même dans votre inconscient un mensonge, il faut que vous retrouviez la vérité de votre être et de votre vie par une parole juste. Retrouvez ce que votre inconscient veut vous cacher. Donc oui, il y a là quelque chose d'assez juste, et puis c'est peut-être même plus que ça, parce que là, je valorise la vérité, je dis du mal du mensonge, je ne peux pas faire le contraire, mais c'est plus que ça, parce que les commentaires ont dit, tiens, c'est curieux, il y a là un couple, monsieur et madame, Ananias et Saphira, qui désobéissent de connivence. Et ça me fait penser à un autre couple mythique de la Bible, qui n'ont pas existé, j'allais dire non plus. Peut-être qu'Ananias et Saphira ne sont aussi qu'une création mythologique. C'est Adam et Ève. Adam et Ève, monsieur et madame, qui se mettent d'accord dans le mensonge pour essayer de prendre la place de Dieu. Adam et Ève étaient dans un paradis. Ah oui, tiens, c'est vrai, là aussi, on a une sorte de paradis. Cette image de l'Église primitive était un vrai paradis. Il n'y avait aucun pauvre, tout le monde vivait en commun, tout le monde était frère, c'était extraordinaire. Ce paradis idyllique de la première communauté est un vrai paradis. Et voilà que l'Église commence comme un paradis, et de la même manière, le mal s'insinue par un mensonge, par la dissimulation, et c'est Ananias et Saphira qui sont finalement les représentants d'Adam et Ève, qui font apparaître le péché dans ce paradis. Alors ils sont condamnés à mort, comme Adam et Ève, dirais-je de la même manière. Mais en fait, Adam et Ève ne mourront pas du tout. Ce qui sera condamné dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est le paradis. C'est-à-dire qu'après le péché originel, il n'y a plus de paradis. Et je dirais que là aussi, cette histoire ne tue peut-être pas Ananias et Saphira, mais cette histoire va mettre fin à l'utopie de l'Église paradisiaque. Ça va mettre fin à l'utopie de cette Église où l'on partage tout, et à partir d'Ananias et Saphira, on n'entendra plus parler de cette communauté merveilleuse où tout le monde s'entendait bien. Et ça va même plus loin, je crois. C'est de voir que, effectivement, la faute, est-ce qu'on peut pousser le parallèle ? La faute d'Adam et Ève, c'est d'avoir voulu se prendre pour Dieu. Et en fait, la faute d'Ananias et Saphira, c'est la même chose, c'est que ils ont voulu prendre pour eux la part qui appartenait à Dieu, puisque d'après la règle, ce qu'ils avaient vendu, c'était propriété de l'Église, donc de Dieu, et donc ils veulent se garder une part de ce qui appartenait à Dieu. Et donc peut-être qu'effectivement, cela nous montre que ce qui est dangereux, c'est quand on veut garder pour soi ce qui normalement est le privilège de Dieu ou de la communauté. Bon. Mais non, j'arrête. Finalement, je ne suis pas sûr d'être très convaincu de ce que je dise. J'arrête, j'essaye, je fais des efforts, hein, vraiment je fais des efforts pour essayer de dire que ce texte a raison, et j'ai lu tous les commentaires et ils disent tous ça, mais finalement je n'arrive pas à m'en convaincre vraiment. Pour tout vous dire, non, c'est pas faux ce que j'ai dit, mais vraiment, est-ce que c'est ça? Non, écoutez, non, finalement non, je ne peux pas défendre ce texte, même si symboliquement il n'a pas tort, d'accord, mais non, ça n'est pas bien, c'est le mal, c'est un scandale absolu, Pierre a eu tort, c'est un assassin, et ce texte est absolument inadmissible, et peut-être même que finalement les commentateurs ont tort. Il ne faut pas essayer de sauver ce texte en disant « mais il a raison, même si ce n'est pas tout à fait vrai, dans le fond il n'a pas tort ». Non, peut-être que ce texte dit tout le contraire de cela, et qu'il nous montre plutôt un contre-exemple. C'est-à-dire qu'il nous montre comment, à partir d'une idée évangélique plutôt généreuse, eh bien on peut déraper et faire le mal. Et peut-être que ça nous montre le danger que peut avoir l'Église, ou le danger de celui qui se prend trop au sérieux, comme Pierre, qui se prend pour le représentant de Dieu, qui se prend pour... Ça, c'est épouvantable, ça. Et même cette première Église, cette première communauté si merveilleuse, est-ce qu'elle était si merveilleuse que ça? Moi, je crois qu'elle n'était pas merveilleuse du tout. Je crois que c'était une chose épouvantablement perverse. Et là, c'est un grand débat chez les chrétiens. Vous savez, certains disent l'image de l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, ça devrait être le modèle de notre Église. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas un modèle. C'est une tromperie. C'est une erreur fondamentale. C'est une dérive terrible. C'est une perversion, voilà. Et ça nous montre, ce texte nous montre, où est-ce qu'on en arrive quand on est dans des utopies communautaires et qu'on veut appliquer des utopies. Où est-ce que ça nous arrive? Ça nous montre peut-être le danger de l'idéalisme. Quand on veut être trop idéal, quand on a une idée trop haute de ce que devrait être l'Église, ou la communauté, ou notre couple, ou notre famille, quand on veut avoir des idées trop élevées et qu'on veut imposer ces idées de force à la réalité, eh bien on broie la réalité et on tue les gens et on empêche les gens de vivre. Donc c'est le danger d'un idéalisme trop fort, le danger aussi peut-être d'une communauté trop importante. Lorsqu'on veut à tout prix sauver la communauté, parce que, eh bien, à force de sauver la communauté, on broie des gens et on exclut des gens. Et donc c'est vrai que c'est un débat dans l'Église actuellement de savoir est-ce que l'Église doit maintenir des règles fortes et maintenir des idéaux, maintenir des réalités essentielles qu'il faut rappeler au monde, ou est-ce que l'Église doit parfois dire, écoutez, l'important c'est pas de maintenir des idéaux, de maintenir des vérités, mais c'est d'accueillir les gens, voilà, c'est de les accueillir, c'est de les recevoir, c'est de dire, ben, après tout le monde est différent et tout le monde ne rentre pas dans le moule, et oui, il y a des gens dans la communauté qui ne sont pas comme on voudrait qu'ils soient, comme la société voudrait qu'ils soient, comme peut-être même eux voudraient être. Eh bien, ces gens-là, on ne va pas leur dire « Vous n'avez pas la place à la communion, vous n'avez pas la place à la bénédiction, vous n'avez pas la place... » Non, ils ne sont pas comme il faut, mais il faut les accueillir. Sinon, on finit comme Pierre, finalement, à tuer les gens. Oui, je le crois. Donc, le danger de donner trop d'importance à la communauté par rapport à l'individu. Et je remarquerai une chose d'ailleurs, c'est que le mot « église », qui apparaît dans les Actes des Apôtres, bien sûr, apparaît pour la première fois au verset 11 du chapitre 5, c'est-à-dire après l'histoire d'Ananias et Saphira. L'église véritable commence à partir du moment où on accepte qu'elle ne soit pas parfaite. Avant, ce n'est pas une église, c'est une machine à tuer. Et donc voilà, cette première communauté chrétienne, on nous dit en Actes 34-32, elle était un seul corps et une seule âme. Ça donne envie. Mais ça me rappelle quelque chose, ça aussi, dans l'Ancien Testament. Un seul corps et une seule âme. C'est ce qui est dit des humains au moment de la tour de Babel. Tiens, comme à Babel, comme à la tour de Babel. Et Dieu regarde ça de son ciel et dit, oh là là, où est-ce qu'ils en sont arrivés? Et donc, il dit, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez cette idée, cette utopie, je dirais, de l'unité absolue, de la pensée unique, du comportement unique, de ce nivellement effroyable. Ça, c'est l'idéal sectaire. Et ça, ça ne fait que tuer et exclure. Alors, les pères de l'Église ont beaucoup utilisé ce texte d'Ananias et Saphira pour montrer que Pierre était bien le chef de l'Église. Donc pour dire, vous voyez, hein, Pierre a bien la primauté, puisque c'est devant lui qu'on amène les machins, etc. Et pour montrer aussi que l'Église avait le droit d'excommunier dans certains cas. Eh bien, pourquoi pas mettre à mort pendant qu'on y est? Qu'est-ce que c'est que cette justification? Heureusement que je n'habite plus au Moyen-Âge, parce que je crois que je n'aurais jamais pu admettre une chose pareille. Pierre est indéfendable. Il a eu tort de tuer Ananias et Saphira, et même son projet d'église était mauvais et pervers. Et voyez, je crois que la Bible, eh bien, n'est pas la légende dorée. Ce n'est pas un récit qui montre que des gens bien, qui font des choses bien, qu'il faudrait faire pareil qu'eux parce que c'est merveilleux. Et la Bible est là pour nous faire réfléchir et nous faire toucher du doigt les réalités humaines en creux et en bosse. Et donc il n'y a pas de nécessité de sauver ce texte pour dire « Pierre a eu raison, c'était très bien ». On a la même chose quand David, le roi David, fait tuer le mari de sa maîtresse pour avoir la paix. Alors vous allez dire que c'est très bien, que c'est ce qu'il faut faire? J'espère pas quand même. Eh bien c'est pareil, David a quand même été un très grand roi, Pierre a été un très grand apôtre, mais il n'empêche que même les plus grands peuvent parfois se tromper. Et puis voilà. Alors l'erreur là-dedans, je pense que ça a été de l'erreur de cette première communauté, qui finalement, à mon avis, n'était pas exemplaire. Peut-être que l'erreur des premiers apôtres, ça a été de vouloir faire comme Jésus, donc faire des miracles, être au-dessus de tout le monde, pouvoir juger, etc. Eh bien non, on n'est pas Jésus. Et les apôtres auraient mieux fait de rester à leur place plutôt que de se croire comme Jésus et de pouvoir se prétendre être en mesure de juger qui vaut quelque chose et qui ne vaut rien. Et les apôtres n'ont pas le pouvoir de donner la vie ou la mort. Seul Dieu l'a, c'est tout. L'erreur, oui, c'est ça, de vouloir juger. Même le Christ a dit... Ne jugez pas. Alors pourquoi nous jugerions? L'erreur aussi, certainement, de confondre l'Église avec Dieu ou avec le Saint-Esprit. Pierre, il dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, c'est à Dieu. Ben, je suis désolé. Ananias et Saphira ont menti aux hommes. Ils ont menti aux apôtres. Et c'est les apôtres qui se sont pris pour Dieu. Et ils ont dit, vous avez trompé le Saint-Esprit. Ils n'ont pas trompé le Saint-Esprit. Ils ont trompé la règle de l'Église. Ça n'est pas pareil. Et c'est lorsque là, justement, les gens commencent à se prendre pour Dieu, quand l'Église se prend pour le Saint-Esprit, qu'on arrive aux choses les plus dangereuses. Donc en fait, oui, tiens, puisqu'on parlait de péché originel, oui, il y a bien un péché originel là-dedans. Et c'est Pierre. C'est Pierre qui se prend pour Dieu. C'est Pierre qui est Adam et Ève tout ensemble et qui fait des mensonges, des confusions, des raccourcis. C'est Pierre qui est coupable de cela, qui se croit pour Dieu lui-même, le centre à partir de quoi on peut tout juger, et ça, ça fait des sacrés dégâts. En fait, Pierre n'est donc pas du tout un exemple, c'est tout le contraire. Il nous montre que quand on privilégie la communauté sur les personnes, quand on privilégie l'idéal sur la réalité, quand on privilégie même la vérité sur l'accueil de la personne, eh bien on commet des meurtres. Et l'essentiel, oui, je crois, c'est l'accueil de la personne, c'est-à-dire de ne pas juger, de recevoir, de pardonner, de comprendre et d'accueillir. Et si on a un idéal trop élevé, on fait beaucoup de choses graves. Et puis, ceux qui sont tués s'appellent Ananias et Saphira. On leur donne leur nom, et vous doutiez que j'en arriverais là parce que j'aime à chaque fois... me demander ce que signifient les noms. Ananias, ça veut dire la grâce de Dieu. Hanan, c'est la grâce, et Yahou, c'est Dieu. Ananias, c'est la grâce de Dieu. Et Saphira, c'est un mot hébreu que vous connaissez, puisqu'il existe en français, c'est le saphir, une pierre précieuse. Et en araméen, Saphira, ça voulait dire qui est belle comme un saphir. Saphira, ça veut dire la belle. La première occurrence du mot « saphira », c'est quand Moïse et Aaron rencontrent Dieu en Exode 24. Et on nous dit, ils virent le Dieu d'Israël, et là sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. C'était comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et donc Saphira, c'est la beauté de Dieu, la transparence et la simplicité. Et voilà ce que Pierre a tué dans son intégrisme, la grâce et la beauté. Eh bien, chacun choisit sa religion, mes amis. Choisissez la religion de l'intégrisme. Moi, je choisis la religion d'Ananias et Saphira. Je crois que la vie en Dieu, c'est ça. C'est la grâce, c'est-à-dire le pardon, la douceur, et c'est la beauté. C'est pas le jugement, pas l'intégrisme, pas l'exigence, pas le fait de se prendre au sérieux, de se prendre pour Dieu et tout ça. Et effectivement, Pierre, en faisant ça, certes, il a raison, il faut que la communauté fonctionne, il faut respecter les règles, nanana, mais attention à ne pas tuer la grâce et la beauté, parce que là, c'est ce qu'il y a de plus grave. Donc il faut sauver Ananias et Saphira, sauver la grâce de Dieu, sauver sa bonté, sauver la beauté de Dieu. Sinon, on ne fait qu'une religion de force, de jugement, de violence, parce que le Dieu qui est notre Dieu est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de pardon, un Dieu de bonté, de tendresse, de beauté, de merveille, de transparence, de douceur et même, dirais-je, de faiblesse. Parce que ce Dieu, il risque toujours d'être écrasé, d'être oublié, d'être mis à mort par ceux qui prétendent avoir raison surtout, par le bon sens, par l'idéal politique, par l'idéal même, l'idéal idéologique. Toujours ce Dieu risque d'être menacé et mis à mort. Et donc, frères et sœurs, oui, j'aime ce texte parce qu'il nous rappelle qu'il ne faut jamais oublier notre petit Ananias et notre petit Saphira, et c'est à eux qu'il faut laisser la vie, car vive la grâce, la beauté de Dieu. Amen.